Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Un livre pour enfants qui fait polémique. Cela s'est passé lors du dernier salon du livre à Tunis. Choqué par son contenu qui incite à la violence et au meurtre au nom d'Allah, un pédiatre a posté une vidéo sur le réseau social Facebook pour en demander le retrait. D'autres internautes choqués ont suivi avec des photos de cet ouvrage intitulé « Allahumma orzokni al-shahada » « Allah, accorde-moi une mort de martyr » et exposé dans le pavillon d'une maison d'édition syrienne. Cet ouvrage controversé et clandestin a finalement été retiré de l'exposition, mais la vidéo du pédiatre a fait le buzz pendant plusieurs semaines. Des écoliers sud-soudanais en Ouganda qui parlent hébreu, des cimetières à l'abandon en Algérie et l'ancien président iranien Ahmadinejad prétendument devenu berger, les observateurs de France 24 ont récolté une belle moisson d'informations inédites ces dernières semaines. À suivre, la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Isabelle Feuerstoss.
Bonjour Éric Bataillon.
Docteur en géopolitique, spécialiste du cybermonde arabophone. L'histoire se déroule lors du 34e Salon du Livre de Tunis, en avril dernier. Au cours de sa visite, un pédiatre tunisien découvre un livre pour enfants qui le scandalise et il en fait une vidéo qu'il poste sur Facebook. Qu'est-ce qui le scandalise, ce pédiatre tunisien ?
Tout d'abord, c'est la couverture du livre. Sur la couverture du livre, on voit un étendard avec la shahada, la profession de foi, derrière un petit enfant. Or, c'est la première fois qu'on trouve, qu'on découvre un livre destiné aux enfants, même si c'est un livre de religion, avec cet étendard. Et cet étendard fait allusion indirecte à l'UI ou à Al-Qaïda, puisque généralement, avant l'apparition de l'UI, on ne trouvait jamais d'étendard avec la shahada représentée de la sorte. Donc déjà, c'est la présence de cet étendard avec la shahada qui a attiré l'attention de cet internaute qui a commencé à feuilleter le livre et là qui est tombé sur un passage particulièrement problématique, un passage bien connu de l'histoire musulmane, du temps du prophète. Toutefois, les images qui illustrent ce passage sont particulièrement violentes. On y voit de jeunes enfants, sabre à la main, et tuant quelqu'un. Et donc, ça a vraiment déclenché un tollé sur les réseaux sociaux, puisque cet internaute a diffusé en direct, si vous voulez, sa découverte de l'ouvrage. Donc, le tollé a été tellement fort que, dans la foulée, les autorités responsables de la foire ont dû retirer l'ouvrage et ont fermé le stand. C'était un ouvrage qui était publié par une maison d'édition syrienne. Traditionnellement, en Syrie, il y a de très nombreuses maisons d'édition dans les sciences islamiques. Toutefois, depuis la guerre en Syrie, tournant 2012, la plupart ont dû partir. Le siège actuel de cette maison, en l'occurrence, cette maison d'édition, se trouve aux Émirats Arabes Unis.
Comment réagissent les internautes à la suite de la publication de cette vidéo, finalement en direct, lors de la découverte ?
Voilà. Donc cette vidéo a fait un buzz, puisqu'elle a été relayée, partagée très très rapidement. Toutefois, c'est resté concentré essentiellement aux réseaux sociaux tunisiens. La plupart des gens qui se sont exprimés étaient bien entendu indignés. Contrairement à d'habitude où on a peu de femmes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, sur les questions de politique étrangère, là on avait une majorité de femmes tout de même qui se sentaient vraiment concernées, puisque bon, elles sont garantes de l'éducation de leurs enfants et pour elles, il s'agit vraiment d'une menace directe. Donc, elles ont dénoncé le contenu de cet ouvrage. Bon, beaucoup d'hommes également. Ils ont une particularité, bien entendu, ces internautes. La plupart, ils sont tout de même relativement éduqués. On compte beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de professeurs, de journalistes. On compte également beaucoup de francophones. Hein. Il y a près de 20% des internautes qui se sont exprimés en français sur ce sujet.
Oui, ça c'est une particularité de la Tunisie où il y a peut-être une fracture au niveau de la langue et un certain nombre de personnes éduquées s'expriment souvent en français à partir d'événements qui s'étaient passés plutôt en arabe.
Je pense qu'il y a une fracture, un clivage aussi de projets de société. Il y a beaucoup de gens éduqués qui sont arabophones et je pense que nombre d'entre eux sont également en train de nous écouter. Non, c'est un projet de société. Que veut-on pour la Tunisie? On le voit bien aussi dans les urnes. On a des partis avec des projets donc plutôt laïcisants, séculiers d'un côté, et d'autres plutôt proposant donc l'application des préceptes de la charia. Donc je pense que cette ligne de fracture peut se retrouver dans une certaine mesure à travers ce clivage linguistique. Il faut quand même souligner que justement il y a toute une frange de la population qui ne s'est pas du tout mobilisée hein, sur ce sujet, c'est-à-dire que les partisans d'Ennahda, par exemple, et je ne parle que de ce parti puisqu'il y a d'autres partis islamistes et surtout même salafistes en Tunisie, même s'ils n'ont pas des scores énormes, ils sont néanmoins bien présents. Bon, ces gens ne se sont pas mobilisés, ou sinon très peu. Il y a quelques sympathisants salafistes qui étaient choqués face à ce genre de réaction, qui ne voyaient pas du tout où était le problème, et s'en prenaient justement à la filiation idéologique occidentale des internautes qui décriaient cet ouvrage.
Justement, est-ce qu'il y a d'autres réactions hors Tunisie qui sont venues sur les réseaux sociaux pour critiquer ou pour approuver cette vidéo?
Alors, il faut savoir que suite à cette vidéo, beaucoup de Tunisiens, d'internautes tunisiens s'en sont pris également à la Syrie et à l'État syrien et ont dénoncé justement la publication de tels ouvrages. Le ministre de la Culture syrien s'en est dédouané aussitôt en publiant un communiqué, en précisant bien que cette maison d'édition n'avait plus son siège en Syrie et que donc il n'y avait aucun rapport entre eux, et puis surtout que la Syrie n'avait pas été invitée à la foire du livre de Tunis, et que donc en rien n'était responsable de la présence de cet ouvrage. C'était vraiment un problème au niveau des autorités de la foire et du contrôle qui avait été exercé en amont. Donc suite à ce communiqué, qui a été énormément relayé par les pages et par des internautes syriens loyalistes, des internautes du Moyen-Orient, je dirais, puisque on a trouvé des Syriens, des Irakiens, des Libanais, se sont insurgés face justement aux télé-tunisiens, se sont insurgés face aux réactions tunisiennes. Pour eux, que des Tunisiens s'en prennent de la sorte à la Syrie alors qu'ils fournissent l'essentiel du contingent djihadiste arabe à l'EI au Moyen-Orient, c'est une énorme hypocrisie. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont retenu. Ils étaient vraiment choqués d'être incriminés de la sorte.
Voilà, et tout est parti pourtant de simplement un livre publié par une petite maison d'édition lors du Salon du Livre de Tunis. Merci Isabelle Feyerstoss.
Merci.
Les observateurs de France 24 nous envoient chaque jour, chaque semaine, tout au long de l'année, leurs informations insolites, humoristiques, voire révoltées. Jamel Belayachi, vous êtes l'un des journalistes de la rédaction qui collecte ces informations. Bonjour.
Bonjour Eric.
Vous en avez sélectionné trois pour Orient Hebdo. La première nous emmène à Kampala, capitale de l'Ouganda, où près de 200 écoliers sud-soudanais s'expriment dans une langue pourtant peu parlée dans le pays, l'hébreu. Comment est-ce possible ?
Eh bien, ils ont tous passé leur enfance en Israël. Mais en 2012, leurs parents ont été expulsés vers le Soudan du Sud qui venait d'accéder à l'indépendance. Et s'ils sont aujourd'hui en Ouganda, c'est parce que des bénévoles israéliens ont collecté des fonds pour les scolariser loin de leur pays, déchiré par une guerre civile. Le projet est géré par l'ONG israélienne BICOM, qui finance actuellement la scolarité de 170 enfants sud-soudanais dans 7 internats différents en Ouganda. Certains des étudiants sont aujourd'hui âgés de 18 ans, comme Marilyn, qui nous a raconté au téléphone qu'elle continuait de pratiquer l'hébreu avec ses amis. car je cite, c'est la seule preuve que nous venons d'Israël.
Autre information que vous avez retenue pour nous, Jamel, l'état déplorable de certains cimetières en Algérie, c'est le coup de gueule d'un internaute.
Oui, Eric. Un de nos observateurs en Algérie, Fodil Boumala, s'est récemment rendu dans un cimetière dans la ville de Blida, près d'Alger. Et ce qu'il y a vu l'a beaucoup choqué. Des tombeaux ouverts avec des ossements à l'air libre, des caveaux saccagés ou transformés en urinoirs, des canettes de bière jetées au sol. Notre observateur a filmé tout cela, puis a diffusé des images sur Facebook afin, nous a-t-il dit, de pousser les autorités à agir. Je précise qu'il s'agit là d'un cimetière européen, datant de l'époque coloniale. Mais de nombreux cimetières musulmans sont également en état de délabrement. Lors d'une rare opération de nettoyage, en octobre 2017, un groupe de volontaires avait collecté près de 35 tonnes de déchets dans des cimetières musulmans. Et ce, uniquement dans les cimetières de l'Est algérien.
Édifiant. Enfin, les observateurs font la chasse à l'intox, ces fausses informations, comme celle-ci venue de Turquie et qui voudrait nous persuader que l'ancien président iranien Ahmadinejad serait devenu berger. C'est faux ?
C'est faux. Tout est parti d'une photo où l'on voit Mahmoud Ahmadinejad en pleine campagne appuyé sur un bâton lors d'une visite privée à un ami politique. Cette image a été relayée des dizaines de milliers de fois sur Twitter. Des internautes turcs qui affirment que l'ancien président iranien mène une vie très modeste. Pourquoi la Turquie ? Parce que ces derniers mois, plusieurs députés turcs ont été très critiqués sur les réseaux sociaux à cause de leur style de vie fastueux. Comme le député Kenan Sofoglu, qui en juillet dernier s'était rendu au Parlement à bord d'une Lamborghini. Du coup, pour dénoncer le train de vie de leurs députés, de nombreux internautes turcs se sont mis à les comparer à la prétendue photo d'Ahmadinejad en berger. Bien évidemment, Ahmadinejad ne vit pas à la campagne, mais dans un quartier résidentiel à Téhéran. D'ailleurs, il siège actuellement au Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime, une sorte de conseil d'État chargé de conseiller le guide suprême Ali Khamenei.
Merci Jamel Belayachi.
Merci Eric.
Vous pouvez retrouver ces informations et bien d'autres encore sur le site www.observers.france24.com.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Il est l'heure de consulter la presse arabe et les journaux israéliens avec Alexandre Bouchanti-Oker. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, les préparatifs de la bataille d'Idlib en Syrie font la une de la presse panarabe.
Oui, c'est l'occasion pour Amin Taheri, un éditorialiste du quotidien Ashat al-Awsat, de comparer l'intervention russe en Syrie à une symphonie du compositeur Tchaïkovski. Empêcher l'effondrement du régime de Bachar el-Assad a été l'ouverture, la reprise d'Alep a été le premier mouvement, et aujourd'hui, c'est une introduction à la finale que sera la bataille d'Idlib. Il ne restait plus qu'à convaincre les alliés iraniens et turcs de l'ukase du tsar Poutine Ier, conclut Taheri en faisant référence au sommet de Téhéran. Le journal égyptien Al-Watan publie une interview de son côté d'un parlementaire et parent de Bachar el-Assad qui affirme que la bataille d'Idlib sera un blitzkrieg si deux obstacles sont surmontés, une intervention occidentale et une séparation des civils et des combattants islamistes.
Michel, deux sujets principaux à la une en cette fin de semaine en Israël, le processus de paix et le Paraguay qui rapatrie son ambassade de Jérusalem à Tel Aviv.
C'est dans le quotidien Israël Hayom que l'on trouve ce titre et ses commentaires, une citation du président américain Donald Trump. Sans négociation, les Palestiniens ne recevront plus d'argent. Alors d'abord, Eric, rappelons que ce journal gratuit est le quotidien au plus fort tirage en Israël et aussi qu'il est très proche du Likoud, le parti au pouvoir. Ce sont des propos tenus par Donald Trump à l'occasion du Nouvel An juif qui débute dimanche soir. Le refus palestinien de s'asseoir à la table des négociations n'est pas une attitude honorable, proclame le président américain. En retour, le quotidien, dans un éditorial, prend fait et cause pour Donald Trump et il s'en prend à la source anonyme à la Maison Blanche et taxe l'auteur de l'article de lâche, avec des objectifs bien précis. Et puis aussi, dans la presse de ce long week-end en Israël, de nombreux articles et caricatures sur le retour de l'ambassade du Paraguay à Tel Aviv, après tout juste 3 mois passés à Jérusalem. Coup de théâtre diplomatique qui ridiculise Netanyahou, estiment plusieurs commentateurs.
Puis Michel, il est également question du sort du village bédouin Khan el-Ahmar.
La Cour suprême se doit de rectifier le tir, estime l'éditorialiste du quotidien libéral Haaretz, dans un article consacré à la décision des juges de donner le feu vert à la démolition du village bédouin de Khan el-Ahmar en Cisjordanie, après une procédure juridique qui aura duré près de 10 ans. Pour le journal, la Cour suprême doit annuler les lois qui bafouent les droits les plus élémentaires des Palestiniens, et l'auteur de l'article cite en conclusion une parabole du Talmud. Non seulement mangèrent-ils des poissons nauséabonds, mais aussi ils furent bannis de la ville.
Alexandre, beaucoup d'articles dans la presse arabe sur les violentes protestations à Bassora en Irak.
Oui, des protestations contre la corruption et l'ineptie du gouvernement de Bagdad qui ont fait jusqu'à présent 11 morts en une semaine et des protestations qui ne semblent pas destinées à se calmer mais plutôt à une escalade selon la plupart des journaux. Alors une situation qui est d'autant plus préoccupante que Bassora est le seul port irakien, un port fermé du fait des protestations, ce qui risque à court terme de provoquer d'innombrables pénuries dans le pays. Alors les journaux révèlent qu'une tentative d'imposer un couvre-feu est morte dans l'œuf du fait des pressions des partis chiites au Parlement. Le sud de l'Irak, rappelons-le, est à large majorité chiite.
Alexandre, les Coptes peuvent-ils prier en paix ? Interrogation que se posent plusieurs éditorialistes égyptiens.
Oui, et une question qui est provoquée par une nouvelle flambée de violence anti-copte dans un village de la province de Minya en Moyenne-Égypte. Alors, maisons pillées et incendiées et coptes battues par une foule de villageois musulmans en colère, et la cause, les coptes ont transformé une maison en lieu de prière, faute d'église. Alors, des incidents qui sont récurrents depuis des années, et l'État jusqu'à présent a cherché à régler le problème par la médiation entre les autorités religieuses musulmanes et chrétiennes, ainsi que par les notables locaux. Pour plusieurs éditorialistes, le temps n'est plus au cachet d'aspirine, mais à la stricte application de la loi contre les auteurs des violences.
Michel Paul, vous retenez encore cette semaine des statistiques publiées par la presse.
Oui, au seuil du nouvel an juif, les journaux publient des chiffres. La population en Israël atteint près de 9 millions d'habitants. 44,3% se déclarent laïcs, les autres religieux à des degrés différents. Alors Eric, outre le fait que le nombre de divorces est en augmentation constante, l'élément le plus curieux que l'on trouve dans ces sondages et autres statistiques, 89% des Israéliens de toute confession se déclarent heureux.
Alors pour conclure Michel, votre image de la semaine.
C'est la photo d'Itai Tiran, probablement l'acteur le plus connu en Israël. Il décide de quitter le pays pour s'installer en Allemagne et il déclare dans une interview que le sionisme est une forme de racisme, qu'il faut soutenir le mouvement BDS pour le boycott d'Israël et qu'il a atteint un degré tel de déprime qu'il doit quitter Israël au plus tôt.
Une sacrée décision. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook.
Sur RFI.
On se retrouve demain, même heure, pour évoquer la sexualité au Maroc avec le professeur Abdessamad Dialmi, expert consultant en genre, santé sexuelle et santé reproductive. Mais tout de suite, un nouveau journal.